L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Sans plus tarder, c'est maintenant mon très grand privilège et un honneur pour moi de vous présenter une grande femme de Dieu. Quand je dis une grande femme de Dieu, c'est vraiment le cas. Elle fait partie des ministères qui circulent le globe en déclarant que Jésus est bon, que Jésus guérit les malades, que Jésus baptise le Saint-Esprit. Elle croit toujours dans la Bible. Amen. Elle n'a pas remplacé les promesses de Dieu pour la tradition, mais elle croit la parole de Dieu, que Dieu est là aujourd'hui pour vous rencontrer. Et puis, elle a un ministère béni, un ministère de télévision. Vous l'avez peut-être déjà suivi également sur enseignemoi.com avec des clips, des partages dans nos quotidiens. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vraiment ça vous inviter à l'accueillir d'une façon québécoise, d'une façon très chaleureuse, notre sœur Audrey Mac de la Floride. Est-ce qu'on peut se lever? Bonjour, c'est béni, pasteur.
Alléluia! Merci, 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 merci. Vous pouvez vous asseoir. Oh, c'est tout. Vous savez que venir ici, Granby, IVQ, c'est IVQ, oui. EVQ. Je fais comme pasteur Joël, je franglise un petit peu. Amen. Après 30 ans de vivre aux États-Unis, mon français, il en a pris un sacré coup. Mais priez pour moi, amen. Alléluia. Mais je disais hier que venir à Granby et à enseignemoi.com et à EVQ, c'est un de mes endroits préférés sur la terre. Et voyez, je le dis pas, en fin de compte, je le dis pas pour vous faire plaisir ou quoi que ce soit, même, mais je voyage à peu près, je suis allée dans à peu près 50 nations, 50 et quelques nations, mais là, ici, au Québec, à Granby, à chaque fois que je sais que je viens, alors je me réjouis et j'ai hâte de venir. Amen. Alors merci, merci, merci pour votre chaleur, pour votre gentillesse, pour votre amour. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, ça m'arrive de préparer un message. Et alors, je passe des heures, j'étudie, je prie, j'essaie de préparer ce message. Et des fois, à la dernière minute, le Seigneur me change, me dit de changer. Et ça m'est arrivé. J'avais passé des heures pour préparer ce message. Il était bon, je vous promets. Hein. Hier même, j'ai passé toute la journée pour me préparer. Et ce matin, je me suis réveillée. Voilà, Dieu a eu le toupet de me changer ce que j'allais faire. Vous voyez un peu le toupet qu'il a quand même, hein. Mais moi, je me réjouis parce que c'est dans ces moments-là, vous voyez, j'ai appris une chose qu'on doit se préparer comme s'il n'y avait pas de Saint-Esprit. Mais on doit venir avec derrière ce pupitre comme s'il y avait seulement le Saint-Esprit. Et alors quand le Seigneur me fait ce genre de petit coup comme ça, qui me change mon message à la dernière minute, alors je me réjouis. Parce que je dis, alors Seigneur, oui, on sort de notre zone de confort, voyez. Mais peu importe, parce qu'on est là avec le Saint-Esprit. Et moi, c'est mon expérience en fin de compte, qu'à chaque fois que ça se passe, c'est qu'il y a quelqu'un là, dans la salle, c'est votre faute, hein. Il y a quelqu'un là dans cette salle qui a des questions, qui a peut-être des choses qui se passent dans leur vie, que le Saint-Esprit, il est tellement bon. Dieu, il est tellement bon qu'il va changer le cours d'un message. Il va changer les choses afin de pouvoir répondre à cette personne, pour pouvoir bénir certaines personnes. Amen. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 2 ans de cela, je devais aller dans une ville en Floride pour faire une conférence de guérison. Non, pardon, je reprends. C'était pas une conférence de guérison, c'était deux réunions. Et j'avais la liberté de prêcher ce que je voulais. Et j'avais préparé quelque chose de très très bon. Comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et alors, mon mari et moi, on est dans la voiture, prêts à aller dans cette ville. Et tout d'un coup, au cours du voyage, la paix, je m'étais préparée, j'avais un bon, et la paix du message, la paix du Seigneur n'était plus là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me tourne, je dis, non, ça va pas. À chaque fois que je regarde mon message, je dis, ah, non, ça va pas. Et tout d'un coup, j'ai ressenti, non, prêche sur la foi et sur la guérison. Alors, j'ai dit, d'accord, j'arrive, j'attends, je suis derrière le pupitre, je dis, ok, Seigneur, t'es sûr, hein? Et alors, je commence à prêcher sur la foi et la guérison. Vous savez, la vérité, c'est que ce soir-là, il y avait une jeune femme qui avait été invitée, qui avait la fibromyalgie pendant 10 ans. Elle a été malade, alitée pendant 10 ans. Elle avait 28 ans. Et depuis l'âge de 18 ans, elle avait passé la moitié de sa vie au lit. Et ce soir-là, quelqu'un l'avait invitée à l'église. Et vous savez, avant de venir à la réunion, elle est prête à aller dans la voiture. Et le Seigneur lui parle, dit, porte du bleu ce soir. Je veux que tu portes une chemise bleue. Seigneur, quoi ? Donc elle va dans son placard, elle va mettre une belle chemise bleue. Et elle est assise là à la réunion. Et toute pendant la réunion, elle a du mal à ouvrir les yeux. Elle a du mal à rester réveillée. Elle est en douleur, elle n'arrive pas à même à faire attention à ce que je dis. Et tout d'un coup, au milieu du message, je m'arrête, je dis, est-ce que Dieu vous a dit de porter la couleur bleue ? Tout d'un coup, cette jeune fille qui n'arrivait pas à garder les yeux ouverts, elle l'ouvre, elle dit, mais Dieu, c'est toi que tu me parles. Tout d'un coup, ça l'a aidé à rester. Dieu a eu son attention. Elle a pu faire attention à ce que je disais. Et vous savez que ce soir-là, elle a non seulement été guérie de la fibromyalgie, elle a été remplie du Saint-Esprit. Et il y avait d'autres maladies qui lui étaient. Elle avait elle ne pouvait pas manger certaines nourritures. Elle pouvait pas manger du lait ou plein de certaines choses. Elle était allergique. Elle a non seulement été guérie de la fibromyalgie, elle a été complètement guérie de toutes les autres maladies. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que Dieu, il aime faire ses orchestrations divines. Alors ne soyez pas étonnés ce matin si Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour vous. Voyez ? Alléluia. Je vois quand je voyage très souvent, dans les églises, la plupart des chrétiens très souvent, ils ne marchent pas dans la victoire. Ils ne marchent pas dans la guérison et en bonne santé. Ils ne voient pas, ils n'ont pas de percée. Leur relation, elle est un peu superficielle. Elle n'est pas... Et j'ai remarqué, en fin de compte, c'est que parce qu'ils essayent de vivre dans cette nouvelle alliance avec les méthodes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que, par exemple, ça vous est arrivé d'acheter un ordinateur tout neuf, version 2015, il sort de la boîte, tout neuf. Est-ce que vous iriez dans votre garage ou dans votre grenier rechercher une boîte en me disant, ah oui, moi je me rappelle, j'ai un manuel d'instruction, vous voyez, le petit bouquin qui vous dit comment, quoi faire, comment. Est-ce que vous iriez dans votre grenier pour chercher un manuel d'instruction qui date de 1975 pour utiliser votre ordinateur de 2015? Mais vous voyez, c'est ça que la plupart des chrétiens font. C'est silencieux dans cette église ce matin. Voyez, et c'est pour ça que ça marche pas. Voyez, j'essaie d'utiliser un ordinateur de l'année 2015 en utilisant des méthodes, des vieilles méthodes. Et oui, peut-être que j'arrive à ouvrir mon ordinateur, à appuyer, à faire deux, trois petites choses. Mais ça va pas. Je vais pas atteindre le potentiel de cet ordinateur. Et, oh, aujourd'hui, dans l'église, c'est ce qui se passe. Les chrétiens ne marchent pas dans la victoire. Les chrétiens ne marchent pas dans la puissance de Dieu parce que nous sommes appelés à non seulement marcher en bonne santé, mais à imposer les mains sur les malades et les voir se guérir. Amen. On est appelés à marcher, à triompher, à marcher dans la victoire. Pas aller de défaite en défaite, de problème en problème, de crise en crise. Non, on est appelés à aller de foi en foi, de gloire en gloire. Amen. Jésus était un triomphaliste. Alors moi, quand on m'accuse d'être une triomphaliste, alors je dis merci pour le compliment. Parce que Jésus était un triomphaliste. Il nous a appelés à triompher. Alléluia. Et vous savez que afin que vous et moi nous puissions triompher, ça veut dire qu'on doit connaître notre Dieu. On doit connaître notre Père. Et je vois très souvent que les gens, ils vous disent, oui, je connais Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Comme par exemple, si vous me demandez si je connais le président des États-Unis ou si vous connaissez le premier ministre, la plupart disent ben oui, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Sa femme le connaît, ses enfants le connaissent, ceux qui travaillent très proches avec lui le connaissent, mais nous, nous ne le connaissons pas, n'est-ce pas? Et très souvent, c'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Les gens ne connaissent, croient qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, que c'est ça la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Vous voyez, on marche dans la victoire, on marche dans la réussite, en bonne santé, on marche dans le succès quand le plus on connaît Dieu, le plus on marche dans cette victoire. Parce que Dieu est victoire, Dieu est triomphe, et le plus on connaît, et le plus on marche dans cette victoire. Mais le problème, très souvent, c'est que je vois, vous voyez, si on fait un sondage et qu'on demande Dieu, si vous faites quelque chose, vous désobéissez, ou vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, est-ce que Dieu va être en colère avec vous? Est-ce que Dieu va vous punir? Est-ce que Dieu... Et si on faisait un sondage pour nous apercevoir qui est Dieu et comment est-ce qu'il agit envers nous, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait les choses, on aurait des réponses très intéressantes. Amen. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, je parlais avec Annabelle et on parlait de certains sondages qu'ils ont fait sur le site enseigne-moi.com, et elle me disait vraiment, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. Et moi, donc, je vois que c'est important maintenant pour vous et pour moi de connaître Dieu. Parce que, voyez, on voit Dieu et très souvent, les gens le voient comme un Dieu sévère. Ils le voient même comme un Dieu qui a un problème avec le POC. Qu'est-ce que c'est le POC? C'est du perfectionnisme compulsif, obsessif et compulsif. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Dieu, il est assis sur le trône, il est comme un perfectionniste. Et non seulement il est perfectionniste, mais il est obsessif. Il nous observe, il nous regarde avec une loupe. Ah, si tu fais pas quelque chose de bien, alors pan! Il est non seulement perfectionniste, obsessif, mais il est compulsif. Il peut pas, il faut qu'il le fasse. Papa! Et en fin de compte, si on faisait un sondage, je parle pas dans cette église parce que vous êtes allé un peu à un niveau au-delà. Merci, c'est pasteur. Amen. Mais je parle dans le corps du Christ en général. Mais je sais qu'il y a des personnes ici. Vous avez la moitié de votre cerveau qui est dans l'Ancien Testament. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et donc, ça veut dire qu'on doit comprendre qui est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, parce que c'est la vérité, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu, il avait l'air tellement sévère. Ah, mais je vous dis que si quelqu'un allait ramasser des brindilles le jour du sabbat, on devait le lapider. S'il faisait un pas de travers, paf, il y avait des problèmes. Dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui était tellement sévère, qui était vraiment intransigeant. Mais alors, on regarde dans le Nouveau Testament et on voit Jésus, tout plein de grâce, tout plein de miséricorde, une femme dans l'adultère, il lui pardonne, il lui dit « va, ne pêche plus ». Un homme qui était l'ami des pécheurs, mais qui était contre les hypocrites, n'est-ce pas? Mais on se dit « mais alors, attends un petit peu, est-ce que Dieu est schizophrène là ?» Vous savez ce que c'est la schizophrénie? C'est double personnalité. Un jour, ils sont comme un petit ange. Le lendemain, ils se lèvent du lit. Ils sont transformés en diable. C'est ça, un schizophrène, double personnalité. On regarde Dieu, on se dit, mais Dieu, il a l'air d'un schizophrène. Dans l'Ancien Testament, il a l'air d'être tellement intransigeant et sévère. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Mais on regarde Dieu dans le Nouveau Testament et on a l'impression qu'il est... qu'il est en vérité plein de grâce et d'amour et de gentillesse et de patience et miséricorde. Alors on se dit alors, qui est le vrai Dieu? Que le vrai Dieu se lève, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu cette émission? Que le vrai Dieu se lève. On a l'impression en vérité et on ne sait pas qui est le vrai Dieu. Alors on est ici, on essaie de marcher dans cette nouvelle alliance, mais on a cette confusion. On dit, bah alors Dieu, il est comment? Il est comme ça ou il est comme ci? Il est comme ci ou il est comme ça? Alors on doit mettre les points sur les i. Et savoir qui est Dieu, que le vrai Dieu se lève, quel est notre Dieu. Et c'est-à-dire qu'on doit commencer à regarder et à se rendre compte vraiment qui est Dieu, quelle est sa vraie personnalité, quelle est sa vraie nature, et pourquoi est-ce qu'il paraissait si sévère dans l'Ancien Testament. Amen. C'est vrai que vous savez qu'on regarde la plupart des chrétiens, parce que dans le livre des Genèses, vous vous rappelez quand Adam a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 26, je pense, que Dieu a dû prendre Adam et Ève et les faire enlever du jardin. il les a enlevés du jardin et il leur a empêché de rentrer dans le jardin. Et même il a mis un ange avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin pour les empêcher d'y revenir. Et vous savez que la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un Dieu qui est furieux, un Dieu qui est tellement en colère parce qu'après tout, l'homme l'a trahi. On voit Dieu avec la fumée qui lui sort des narines. Je t'avais fait confiance, je t'avais tout donné, je t'avais béni et c'est comme ça que tu me repais? C'est ça qu'on voit. On voit Dieu qui prend Adam et Ève par les cheveux, qui les tire, qui les fait sortir du jardin, un coup de pied aux fesses en disant « Reviens pas !» Et donc, on a cette impression que Dieu, il était tellement en colère parce qu'il est le péché. Il était tellement en colère qu'il était en colère avec l'homme, qu'il était intransigeant avec l'homme et qu'il a dû le chasser dans sa colère et dans sa fureur. Mais vous savez, en fin de compte, pourquoi est-ce que Dieu a dû chasser Adam et Ève du jardin? Pourquoi est-ce qu'il a dû les enlever du jardin et les empêcher de revenir? Vous voyez, ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si Adam et Ève restaient dans le jardin où il se trouvait l'arbre de la vie et qu'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la vie dans cette condition de péché, que l'homme serait éternellement dans le péché, qu'il n'y aurait aucune solution, que le plan de rédemption ne pourrait pas se faire. Alors Dieu, dans sa miséricorde et son amour, a dû dire « Je dois les protéger d'eux-mêmes. Je dois les empêcher de manger de ce fruit afin qu'un jour je puisse envoyer mon fils, le Messie, pour les racheter, pour les libérer, pour les guérir. » Alléluia! C'était un acte de miséricorde, un acte d'amour, si vous me permettez. Et vous savez que si vraiment on regarde depuis la fin des temps, depuis le moment où Adam a été créé jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, les historiens nous disent qu'il y a à peu près 6000 années, grosso modo, 6000 ans à partir du moment où Adam a été créé jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins 6000 ans. Mais vous savez que si on regarde bien, à partir du moment où Adam a été créé, jusqu'à ce que Dieu amène la loi, parce que, je vous dis la vérité, pourquoi est-ce que nous voyons Dieu sévère? D'où elle vient cette notion qu'on voit Dieu qui est sévère, intransigeant, qui est prêt à punir rapidement? Ça vient d'où cette notion? Ça vient de la loi. C'est au travers de la loi que Dieu avait donné à Moïse, que l'on a cet aperçu, que l'on voit Dieu comme un juge, non plus comme un père. Mais vous voyez, depuis le début des temps, quand Dieu a créé Adam, jusqu'à ce qu'il ait amené la loi, Dieu, écoutez-moi bien, ne jugeait pas l'homme selon son péché. Dieu ne punissait pas l'homme selon son péché. Me regardez pas de travers, là. On va voir dans la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Romains 5, verset 13 nous dit, jusqu'à la loi, il y avait le péché, et le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé ou mis sur votre compte. C'est un terme de comptabilité. Le péché n'était pas imputé ou mis sur votre compte quand il n'y a pas de loi. En d'autres mots, avant la loi, Dieu ne punissait pas l'homme selon leur péché. Exemple, écoutez-moi bien aussi dans le livre aux Romains, preuve numéro 2. Romains 3, 25 nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Exemple, vous vous rappelez Caïn? Caïn qui était le premier meurtrier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui dit, Caïn, le péché est à la porte et son désir est de te détruire. Vous voyez, Dieu n'a pas dit « oui, c'est mon désir de te détruire ». Il a dit « non, c'est le péché qui cherche à te détruire ». Et après, quand Caïn a dit « oh là là, maintenant, la terre m'a maudit ». Ce n'était pas Dieu qui l'a maudit, c'était la terre. Il dit « parce que maintenant la terre m'a rejeté et m'a maudit, quiconque va me rencontrer va vouloir me tuer ». Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a mis un sceau de protection sur son front, que quiconque le rencontre, quiconque le détruit ou essaie de lui faire du mal sera vengé cette fois. voyez, ça, c'était pas un acte de... Il n'a pas puni ou imputé le péché à Caïn, mais au contraire, il l'a protégé dans sa miséricorde. Exemple numéro 2, Abraham. On voit Abraham presque sur un piédestal, comme quelqu'un de parfait qui fait jamais de faute. Bien au contraire. Qu'est-ce que Abraham a fait ? Abraham, il a menti, non pas une fois, deux fois, pour se sauver le coup, pour se sauver lui-même. Quand il a eu sa femme, Sarah, qui était une belle femme, que le pharaon ou Alimelech l'a vue, qui voulait la mettre dans son harem, alors Abraham, monsieur courageux, exemplaire, bien sûr, il a dit, oh ben non, non, c'est pas ma femme, c'est ma fille, allez-y. Aujourd'hui, messieurs, si c'est ce que vous feriez, qu'est-ce qui se passerait ? Vous auriez des problèmes. Est-ce que c'est un acte exemplaire ? Non, au contraire. Non seulement il a menti deux fois pour se protéger lui-même, mais selon la loi, je crois que c'est Lévitique, chapitre 18, et Deutéronome, chapitre 27, verset 22, la loi dit que quiconque marie sa sœur ou sa demi-sœur va devoir être puni et lapidé. Qu'est-ce que Abraham a fait ? Il a marié sa demi-sœur. Est-ce que Dieu l'a jugé, l'a puni ? Non. On voit que tout au long, les premiers 2400 années, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Il faisait des fautes. Abraham a fait des fautes. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob ? Il a trompé. Il a manipulé. Il a fait tout un tas de trucs. Il a menti. Isaac, la même chose, il a menti. Mais Dieu ne les a pas punis ou n'a pas chargé le péché sur leur compte. Ou comme on a vu dans le livre aux Romains, Dieu a passé au-dessus ces péchés qui étaient commis pendant son temps de sa patience. En d'autres mots, on voit que les premières 2400 années, Dieu faisait preuve de grâce, de miséricorde, de patience et d'amour. Mais il avait une relation avec ces personnes, n'est-ce pas ? Il marchait avec Enoch, il a marché avec Noé, il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. Il avait une relation, mais voyez, ce n'était pas une relation qui était basée sur la loi, car la loi n'existait pas, elle était basée sur sa nature qui est la grâce. Dieu faisait preuve de grâce, d'amour et de miséricorde. Et bien sûr, on sait qu'après 2400 ans, Dieu a choisi le peuple d'Israël, il les a fait sortir du pays d'Égypte, et il leur a dit, on voit dans le livre d'Exode, je veux faire de vous une nation de sacerdoces. En d'autres mots, je veux avoir une relation avec vous, un à un. Je veux vous parler face à face, comme le genre de relation qu'il avait avec Abraham, le genre d'alliance qu'il avait avec Abraham. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit ? Non, rappelez-vous, et Israël, c'était des esclaves, avec une mentalité d'esclave. Et quand Dieu a dit, je veux faire de vous une nation de sacerdotes, je veux avoir une relation avec vous, un à un, avec chacun d'entre vous. Je veux vous parler, je veux te parler à toi, Lévi, je veux te parler à toi, Aaron, je veux parler à toi, un à un, comme je l'ai fait avec Abraham. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit ? Non, Moïse, toi tu vas, tu lui parles. Hein. Alors nous, non, on a peur, on va... Tu y vas, parle-lui, qu'il te dise ce qu'il faut faire, après tu nous le dis, c'est bon. Vous voyez, la mentalité d'un esclave. Et Dieu n'a eu aucun autre recours mais de venir à leur niveau. C'était pas, voyez, si la loi était si bonne, si la loi était si parfaite, si la loi était la volonté de Dieu, Dieu la leur aurait donnée le jour où Adam avait péché. Mais il a attendu 2400 années. Et finalement, il a dû amener la loi, non pas parce que c'était son désir, mais parce qu'il n'a eu aucun autre. C'était le seul recours. Pour pouvoir bénir Israël, pour pouvoir le guider, le protéger, il a dû amener la loi. Écoutez, regardez dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Tout le monde va bien ? Hébreux chapitre 8. Dans le verset 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur... Attendez, je vais voir là. Ah, le voilà. Hébreux 8, verset... Qu'est-ce que j'ai dit ? 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, première, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, deuxième alliance, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. De quelle alliance parle-t-il là? Il dit, je vais leur donner une nouvelle alliance, cette alliance en Christ. Non pas comme l'alliance que j'ai eue avec eux quand je les ai fait sortir d'Égypte, la loi, alliance numéro 2. Pourquoi j'ai dû leur amener la loi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré et accepté mon alliance, l'alliance que j'avais fait avec Abraham, qui était une alliance de foi. Voyez, Dieu voulait marcher avec Israël, il voulait que Israël mette leur foi en Dieu, lui fasse confiance, le suive, l'écoute, lui parle comme Abraham le faisait, mais ils ont refusé. Alors Dieu n'a eu aucun autre recours de leur amener une autre alliance, l'alliance de la loi. En fin de compte, si vous me permettez, il a dû les traiter comme des petits gamins, comme des enfants. Qu'est-ce qu'on dit avec les enfants? Si vous voulez les protéger, les guider, leur enseigner quelque chose, les aider, vous allez leur dire, ok mon petit chéri, si tu obéis maman, maman te donne une sucette. Mais si tu désobéis maman, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ça? Je vais t'imposer les mains dessus, la fessée. Qu'est-ce que c'est ça? Obéissance, récompense. Désobéissance, punition. Ça vous rappelle pas de quelque chose là? La loi. En fin de compte, Dieu a dû les traiter comme des enfants parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec Dieu comme Abraham l'avait fait, comme Isaac et Jacob. Et Dieu a dû venir à leur niveau. Ils avaient une mentalité d'esclave, d'enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire et je le fais. Ils n'avaient pas la possibilité de penser pour eux-mêmes. Leur cœur était endurci. Alors Dieu a dû amener la loi. Et pourquoi la Bible nous montre pourquoi la loi? Tout premièrement, Dieu a dû leur amener la loi, comme on a vu, pour les protéger, les guider, pour les empêcher de désobéir, jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est comme ça qu'on fait avec un enfant. On le punit, on le récompense jusqu'à ce qu'il grandisse, voyez? Et quand cet enfant vient à l'âge de 30 ans, est-ce que vous allez le motiver avec des sucettes et des fessées? Non, vous allez le motiver avec votre parole, votre conseil. Et après, vous allez lui donner la liberté de choisir, lui faire confiance. C'est ça, Dieu a dû traiter Israël comme des enfants jusqu'à ce que le jour, et la Bible nous dit jusqu'à ce que le Messie vienne. La loi a été amenée pour les aider, pour les empêcher de désobéir, pour les protéger, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ce que Galates, regardez dans Galates 3. Oh, je sais que c'est silencieux dans cette église ce matin. Mais voyez-moi, quand j'ai découvert ce message, c'était comme si tout d'un coup, j'ai pu rassembler tous les morceaux de puzzle. J'ai pu connecter tous les points. Et tout d'un coup, ma Bible j'ai commencé à comprendre ma Bible et à comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. Merci pour ce alléluia, je crois que je vais prêcher ici. Tout prédicateur a besoin d'un petit peu d'encouragement de temps en temps. Alléluia. Gala, on devrait faire, pasteur Joël, vous savez comme ils font à la télé, les applaudissements, de temps en temps. Je rigole. Il faut pas perdre le sens de l'humour quand même. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu est assis sur le trône et qu'il rigole. Même si vous ne comprenez pas la blague, on est appelé à rire avec lui, on est assis à la droite du Père. Alors tant qu'à faire, rigolons. Il y a tellement de chrétiens qui ont l'air de cornichons plantés dans le vinaigre. Mais pas dans cette église, il n'y a pas de cornichons ici. Merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. C'était qui la postérité ou la semence? C'était Jésus. Et en fin de compte, Dieu, pendant ce moment-là, parce que vous vous êtes rendu compte qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Oh là là, le péché commençait à s'étaler, à se répandre, en sorte que les gens commençaient à vivre de plus en plus court. Adam a vécu 930 ans, n'est-ce pas? Après 900 ans, 800, ça a été commencé à raccourcir. Jusqu'au... Et Dieu, a... c'est une des raisons pour laquelle il a amené la loi, c'était pour protéger la semence. Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous dites, mais Audrey, tu nous dis que pendant le temps d'Abraham, de Isaac et de Jacob et de Noé, tout ça, que Dieu n'imputait pas le péché, qu'il ne punissait pas les hommes selon leur péché. Alors pourquoi il a envoyé le déluge? Pourquoi est-ce qu'il a consumé Sodome et Gomorre? Pourquoi est-ce qu'il l'a détruit? Je vais vous dire pourquoi. Regardez dans la Bible, dans Romains chapitre 9, verset 29. Romains 9, 29. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Pourquoi est-ce que Dieu a dû détruire le monde et amener un déluge? Il a dit à Noé de construire une arche. Pourquoi est-ce que Dieu a dû détruire le monde? Pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorre? C'est pas parce que Dieu était en colère et furieux et prêt à vouloir punir, prêt que c'était son désir, c'était son dessein. Il attendait avec impatience de pouvoir les tuer, les détruire. Pourquoi est-ce que Dieu l'a dû le faire? Pour protéger la semence. Parce que si Dieu n'avait pas éliminé le monde, éliminé Sodome et Gomorre, il n'y aurait plus eu, il y a 2000 ans, il n'aurait plus trouvé personne juste qui avait la crainte de Dieu en eux, une personne juste pour amener une vierge. Il aurait pu trouver de vierge. Regardons un petit peu avec logique. Quand Dieu a dit à Noé de construire une arche, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné naissance à un fils qu'il a appelé Méthuséla. Vous vous rappelez ça? Méthuséla. Qu'est-ce qu'on sait à son sujet? Qu'est-ce que c'est que la Bible nous révèle au sujet de Méthuséla? Qu'il était l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Pourquoi est-ce qu'il a vécu? Il a vécu plus longtemps que son père et son grand-père. Pourquoi est-ce que Méthuséla a vécu et a vécu? Il ne mourrait pas. Parce que le nom Méthuséla veut dire quand il meurt, ça vient, ça arrive. Qu'est-ce que c'est qui arrive? Qu'est-ce que c'est qui avait été prophétisé? Le déluge, le jugement de la terre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a construit une arche et après, il a prêché la justice. On dit qu'il était un prédicateur de justice. Il a invité tout le monde à rentrer dans l'arche. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? 8 personnes. Vous me dites que de toute une génération, seulement 8 personnes sont rentrés dans l'arche. Vous savez qu'est-ce que ça me révèle? Que Dieu n'était pas prêt à vouloir punir avec impatience. Non, il a attendu. Et alors Méthuséla a vécu. Il mourrait pas. Et finalement, quand il y avait plus que 8 personnes, que Dieu n'a pas pu attendre plus longtemps, sinon toute la race humaine serait détruite. Dieu a dit, je peux plus attendre. C'est fini. C'est le moment. On doit l'amener. Et alors, Noé est rentré dans l'arche. Et c'est pour cela que, voyez, ça nous montre la patience de Dieu. C'est pas un Dieu qui était prêt à juger et à tuer la race humaine. Non. Pourquoi est-ce que Dieu a amené le déluge? Pour sauver la race humaine. Voyez, si vous avez du cancer dans les seins, vous avez le cancer du sein et que vous allez chez le docteur, une des choses que le docteur va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enlever les 2 seins, n'est-ce pas? Et on dirait que c'est un acte un peu inhumain. On dit, mais on peut pas faire autrement. Mais non! Non! Il peut, s'il veut vous sauver votre vie, il doit vous couper les seins ou la jambe ou un membre qui est affecté. C'était en fin de compte ce que Dieu a fait. Dieu a dû couper la jambe. Il a dû éliminer la race humaine parce qu'il n'y avait plus que 8 personnes qui avaient mis leur foi en Dieu. Et que si Dieu attendait un petit peu plus longtemps, le potentiel aurait été que toute la race humaine serait détruite. La même chose avec Sodome et Gomorre. Voyez, leur cœur était tellement corrompu que Dieu ne pouvait pas traiter avec leur cœur. Dieu a dû se concentrer sur leur, et couper la jambe, façon de parler. Et on voit là que Dieu a attendu 969 ans jusqu'à ce qu'il ne puisse plus attendre. Et là, il a dû couper la jambe, façon de parler. Vous voyez, ce n'était pas un acte de colère. Ce n'était pas un acte désiré de « Ah, moi je suis un Dieu de justice, je vais vous punir. » Non, c'était un acte de miséricorde pour sauver la race humaine afin qu'un jour, il puisse amener le Messie pour vous sauver, pour me sauver, pour vous libérer, pour me libérer, pour vous guérir et me guérir. Alléluia. Et voyez la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait une telle mentalité d'esclave, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient confiance qu'en leurs propres efforts. Quand Dieu leur a dit, si vous m'obéissez, si vous écoutez ma voix, que vous marchez avec moi, dit, tout ce que tu vas nous dire, nous, on va le faire. Et la Bible du Joseph nous révèle dans le livre des Actes qu'ils se sont réjouis sur l'œuvre de leurs mains, sur leurs propres efforts. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Vous voyez, il a amené la loi qui était un standard tellement haut, tellement élevé, qu'est-ce que c'était? Pour leur montrer, tu peux pas être juste par tes propres efforts. Tu ne pourras jamais être, vous voyez, la loi est bonne, mais la loi est parfaite. Elle est tellement parfaite que vous et moi, qui vivons dans un corps imparfait, dans un monde imparfait, on ne peut jamais atteindre à ce standard de perfection. La loi est parfaite, mais on essaie, ok, je vais bien marcher, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et comme Jacques 2,10 nous dit, si on brise la loi par un, on a tout brisé. Ça, c'était pas pour nous rendre juste, la loi n'était pas pour nous rendre juste, mais pour nous montrer, arrête d'essayer d'être saint, arrête d'essayer par tes propres efforts d'être juste, arrête d'essayer d'être ton propre sauveur. Et quand on arrive à la fin de nous-mêmes, qu'on dit, mais j'essayais, je peux plus. Dieu enfin, il dit, bah enfin, maintenant il va pouvoir, voyez, tu peux, je sais enfin, ça t'a pris longtemps, je sais tu peux pas, mais regarde, il y a quelqu'un qui va pouvoir te rendre juste. Il y a quelqu'un qui va venir qui est parfait. Et en lui, tu seras parfait. En lui, tu vas accomplir la loi. En lui, tu vas pouvoir marcher droit. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit, que la loi est venue jusqu'à ce que Jésus soit venu. Et bien sûr, on voit après. Voyez, pourquoi? On voit après, voyez ça, la loi, ça a duré combien de temps? La loi vraiment de Moïse à Jésus. La loi était jusqu'à ce que Jésus vienne. Et de Moïse à Jésus, il y a combien de temps? Il y a 1600 ans qui se sont passés. 1600 ans. Et on a vu que pendant la loi, Dieu a dû juger l'homme selon son péché. Dieu a imputé le péché à l'homme. Et immédiatement, s'il péchait, ils étaient punis. S'ils obéissaient, Dieu pouvait les bénir. Mais moi, je me rappelle même le roi David a dit, tu ne nous as pas punis selon nos péchés. Même sous la loi, tu as été bon avec nous. Même sous la loi, tu ne nous as pas punis selon ce que l'on méritait. Mais après, on voit quand Jésus est venu, de Jésus à maintenant, il y a combien d'années à peu près? Grosso modo. 2000 ans. On voit 2400 ans jusqu'à Moïse, de Moïse à Jésus à peu près 1600 ans, et maintenant de Jésus à nous à peu près 2000 années. Comment est-ce que Dieu agit envers nous en Jésus? Est-ce qu'il nous punit? Est-ce qu'il nous juge? Est-ce qu'il délivre et sa colère contre nous si on fait un pas de travers? Écoutez ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens 5,19 dit, Dieu est en Christ, réconciliant le monde à lui-même, n'imputant point leur péché contre eux, ne mettant pas le péché à leur compte. En d'autres mots, on dit que maintenant en Christ, parce que tout le péché, toute la colère de Dieu, toute la justice a été satisfaite. Oui, je suis pas en train de dire que le péché n'est pas important, que le péché, pof, on l'ignore, on le met sous le tapis. Non, non. Voyez, le péché était tellement important que Dieu a envoyé son Fils pour payer la facture, pour payer tout le péché, pour satisfaire justice, la justice. En fin de compte, quand Jésus est allé sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été comme un paratonnerre. Il a attiré toute la colère. Il a attiré tout le jugement. Il a attiré toute la maladie. Il a attiré toute la pauvreté. Il a attiré tout sur lui, comme un paratonnerre. savez ce que c'est un paratonnerre? La foudre de Dieu, la foudre, la justice, la colère, la malédiction, tout le péché sont tombés sur Jésus. Ça veut dire que maintenant, en Jésus, la facture a été payée. Ça veut dire que maintenant, en Jésus, Dieu n'a plus besoin de faire avec nous, de nous traiter comme il traitait les enfants d'Israël. Non seulement pourquoi ? Parce qu'il a changé notre cœur. Si vous êtes né de nouveau, il vous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et maintenant, dans votre cœur, vous ne voulez plus pécher. Dans votre cœur, vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Êtes-vous d'accord ? Dans votre cœur, il y a la justice. Vous avez la nature de Jésus. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes parfait. Dans votre cœur, vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Et donc maintenant, en Christ, Dieu ne nous juge pas. Maintenant, son alliance avec nous, ce n'est pas comme il le faisait selon la loi, immédiatement punir. Non, maintenant, il nous traite comme des fils en Jésus-Christ. Et il ne nous punit pas selon nos péchés. Il ne nous juge pas. C'est pour ça que dans Romains 8, 1, il dit « En Christ, il n'y a plus de condamnation ». Il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'imputation du péché en Christ, il n'y a plus de malédiction. Galates 3:13 dit qu'en Christ, nous avons été rachetés de la malédiction. Et si vous voulez vraiment regarder, vous voyez, une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est que le problème, vous voyez, comme on voit, la loi était temporaire. Jésus a dû amener la loi pour un petit bout de temps, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'était un médicament, si vous me permettez, temporaire. Mais vous savez, comme tout médicament, vous avez déjà peut-être pris des médicaments pour la haute tension. Vous regardez, voyez, votre petite boîte ou quoi que ce soit pour la haute tension. Et d'un coup, dans les petites lignes toutes fines, il y a dit vous allez peut-être devenir aveugle, vous allez peut-être commencer à vomir, vous allez peut-être avoir des faiblesses de jambes, vous allez avoir une maladie de cœur. Tout d'un coup, tous les effets secondaires. Qu'est-ce qui est mieux, la haute tension ou le reste? Voyez, la loi était qu'en fin de compte comme un moyen secondaire, c'était un moyen temporaire, mais qui venait avec des effets secondaires. C'était quoi l'effet secondaire? C'est que tout d'un coup, le peuple d'Israël s'est arrêté de voir Dieu comme Abraham le voyait, comme un père, comme un protecteur, comme un qui venait pour le bénir, comme Enoch qui dit, il est un celui qui est rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Vous voyez, au lieu de voir Dieu comme Abraham, Enoch et les hommes de Dieu le voyaient, ils ont commencé à voir et percevoir Dieu non plus comme un père, un bénéfacteur, ils ont commencé à le voir comme un juge, comme un perfectionniste, obsessif et compulsif. Ne me regardez pas d'une manière innocente. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je souffrais de ce, d'où je voyais Dieu. Des fois, c'est parce qu'on a peur de s'approcher de lui trop près, de lui demander certaines choses, ou de faire quoi, parce qu'on a l'impression que Dieu va nous taper sur les doigts avec la petite baguette. Amen. Et pas à cause de ces effets secondaires, Jésus a dit, voilà une des raisons pour laquelle je viens, pour vous montrer le Père. Et il a dit aux disciples, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Il a dit, Philippe, tu me demandes de voir le Père, sais-tu pas que quand tu vois le Père? Et vous savez que Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que Jésus est l'empreinte identique. Voyez, nous, il n'y a pas une empreinte identique à l'autre. On a tous une empreinte différente, n'est-ce pas? Mais là, la Bible nous dit dans Hébreux 1, 3 que Jésus est l'empreinte identique du Père. C'est-à-dire que si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Si vous regardez, observez ce que Jésus dit et ce qu'il fait, il vous révèle le Père immédiatement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Jésus a rendu quelqu'un malade? Ou qu'il a refusé de guérir quelqu'un? Ou qu'il a fait quoi que ce soit un petit peu pour être méchant ou pour punir? Non. Si vous voulez vraiment voir et connaître qui est le Père, et vous avez remarqué dans une période de 6000 années, pendant 6000 ans, pendant combien d'années est-ce que Dieu a jugé le peuple selon le péché? C'est pas un piège, c'est simplement du mathématique. 1600 ans. Et le reste du temps qui est 4400 années, Pendant 4400 années, Dieu a fait preuve de grâce, de miséricorde, de patience et d'amour. Mais c'est seulement pendant 1600 ans que Dieu a dû juger le peuple selon leur péché. Et il ne l'a pas fait, on vient de voir, parce qu'il était en colère avec un désir ardent de punir et de juger. Non, il l'a fait, c'était un remède temporaire, jusqu'à ce qu'il amène Jésus. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël ne voulait pas être avec lui et le traiter comme un père. Il ne voulait pas s'approcher de lui le plus près et marcher avec lui. Amen. Vous vous rappelez ? Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre à connaître Dieu. Et à répondre à la question, pourquoi était-il sévère? Est-il sévère avec nous? Est-il prêt à nous juger, à nous punir, à nous mettre la baguette sur les doigts? Parce que j'entends des gens qui disent, oui, la maladie, bon, c'est Dieu qui a dû la permettre pour me guérir, pour m'humilier, pour m'approfondir, pour... je vous dis le nombre de fois où j'entends les gens qui disent que les épreuves, c'est Dieu qui les envoie pour nous pousser, nous tester, nous approfondir, nous faire mûrir, ou la liste est longue. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est comme un Dieu un peu capricieux et qui va tordre, qui va mettre de la maladie sur ses enfants pour leur apprendre quelque chose? Comme un papa, un maman qui va vous mettre la main dans le feu pour vous dire, tu vois, le feu ça brûle. C'est pas mon Dieu, c'est pas mon papa. Ça me met en colère plus que toute autre chose. C'est une colère juste, n'est-ce pas? Mais on voit où j'en étais. Oh oui. Mais vous ne faites pas attention alors. Il n'y a personne qui me dit où j'en étais. Je rigole. Alléluia. On veut voir vraiment la nature de Dieu. Regardez Jésus. Vous vous rappelez Jésus? Ça se trouve dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, je crois que c'est le verset 53. Attendez, je vais voir. Dans Luc, voilà. Versets 53 à 56, Jésus est avec ses disciples et il va vers Jérusalem, et pour aller à Jérusalem, il doit traverser la Samarie. Si vous savez quoi que ce soit, les Samaritains n'aimaient pas les Juifs d'Israël, de Jérusalem. Ils avaient des petits problèmes de doctrine, ils pensaient là on doit louer Dieu à Jérusalem, non on doit louer Dieu n'importe où, bref. Ils s'entendaient pas bien, ils étaient pas d'accord. Et quand ils ont entendu que Jésus allait vers Jérusalem, alors les Samaritains ne lui ont pas permis de passer la nuit en Samarie. Ils lui ont dit non, on te laisse pas rester ici, non, tu vas vers Jérusalem. Alors si tu vas à Jérusalem, tu vas à Jérusalem. Nous on n'a rien à faire avec toi. Et alors on voit que Jacques et Jean, qui s'appelaient les fils du tonnerre, ont regardé Jésus, tu veux qu'on envoie la foudre sur eux pour les consumer, pour les l'enfer du barbecue. Tu veux qu'on envoie la foudre comme l'a fait Élisée? Mais rappelez-vous, Élisée, de quelle dispensation appartenait-il? La dispensation de la loi. Et il se sentait, en fin de compte, il pensait que c'était Élisée a fait. Mais je suis persuadée que si Jésus était avec Élisée, il n'aurait pas aimé ça. Et remarquez un petit peu ce que Jésus a dit. Quand Jacques et Jean dit, oh, on est justifié, Jésus, il te rechasse, il te rejette. Est-ce que tu veux qu'on appelle la foudre, la colère de Dieu, qu'on les consume, qu'on les foudroie, comme l'a fait Élisée? Et alors il s'attendait en disant, oh les gars, ouais, peut-être c'est bien, allez-y, quelle foi, quelle puissance. C'est ça qu'il s'attendait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il les a réprimandés et leur a dit, non, vous ne savez pas de quel genre d'esprit vous êtes. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, c'est pas le jugement, c'est pas la punition, c'est pas un désir de punir, de juger, d'amener la foudre. L'esprit de Dieu, l'esprit du Père, c'est la grâce, c'est la miséricorde. Et en Christ, dans cette nouvelle alliance, Dieu agit avec nous vraiment d'une manière similaire comme il le faisait avec Abraham. Pourquoi? Parce que cette nouvelle alliance est l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'est-à-dire que Dieu maintenant traite avec nous selon notre cœur. Voyez, dans Romains, il dit que maintenant, nous avons été en Christ dégagés de la loi, libérés de la loi, afin que maintenant nous puissions servir, non pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que vous savez que la loi, on a vu que ça amenait la colère. La loi, ça, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 11, nous dit, il appelle la loi le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Voyez, si vous cherchez à marcher sous la loi, tôt ou tard, vous allez perdre, vous allez faillir, vous allez chuter, vous allez vous sentir condamné, vous allez vous sentir moins que rien. Et c'est impossible d'avoir une relation avec Dieu en se sentant condamné, moins que rien, indigne. Voyez, la loi, non seulement ça vous... Écoutez-moi bien et mettez vos pierres sous la chaise, ne me lapidez pas. Non seulement on a été libéré de la loi parce que la loi va vous accuser, va vous tuer, mais la loi va réenforcer le péché dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dire ? 1 Corinthiens 15, 56 dit que la force... Attendez, je vais le lire parce que je ne veux pas le charcuter. 1 Corinthiens 15. Oh, alléluia ! L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et écoutez bien cela. Et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Que à chaque fois que vous essayez de marcher sous la loi, qu'est-ce que c'est la loi ? C'est une liste de faire et de ne pas faire. Tu fais ceci, tu fais pas cela. Tu dois faire. C'est un petit peu comme un régime. Vous avez déjà essayé de faire du régime, mesdames ? Tu ne mangeras pas de frites, pas de poutine. Tu ne mangeras pas de glace et de bonbons, pas de dessert, pas de pizza, pas de... Mais tu dois manger des légumes bouillis, tu dois manger seulement des fruits, tu dois manger simplement du brocoli avec un tout petit peu de beurre, tu dois manger. C'est ça, non ? Regardez pas d'une manière innocente. Regardez votre voisin plutôt. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand on est sous la loi, le désir pour « tu ne dois pas » se ranime, se vivifie. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui a fait cette expérience, c'est l'ami d'un ami qui a fait cette expérimentation. Il voulait voir si vraiment ça, c'était vrai que ça marchait. Alors, il a dit à ses enfants, il leur dit « écoutez, les enfants, il les a vus jouer derrière, derrière la maison, tout gentil, tout bien. » Il a été vers eux, il dit « mes enfants, écoutez-moi bien. » Il me dit « j'ai oublié de vous dire, c'est bien, vous jouez bien, tout va bien. Mais vous voyez ces fleurs-là ? Surtout, ne les touchez pas. C'est maman qui les a plantées. Si vous touchez ces fleurs, que vous venez même à côté, vous allez avoir affaire à moi. Vous m'entendez, les enfants ? Jusqu'à présent, les enfants, ils ne savaient même pas que les fleurs existaient. Ils s'en étaient même pas rendus compte. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est re-rentré à la maison. Il s'est caché derrière la fenêtre. Et il a observé. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Que jusqu'à présent, les enfants ne savaient même pas que ces fleurs étaient là. Ils s'en fichaient complètement, pour vous dire la vérité. Tout d'un coup, wow, ils étaient attirés vers les fleurs. Et il les a regardés, et ils étaient tous autour en regardant, disant, oh, tu te rends compte, on ne peut pas toucher les fleurs. Tu crois qu'il veut que c'est vrai? Tu crois, qu'est-ce qui va se passer si on les touche? Tu crois qu'il y avait quelque chose qui va se passer? Oh, je sais pas, attends, regarde, toi tu regardes, moi je vais essayer, hein. Et il les a regardés, il y en avait un qui était là. Avec le doigt de pied. L'autre qui a dit, peut-être que je ne peux pas les toucher, parce que je peux cracher dessus. Et il y avait ceux qui regardaient en disant, ah ben moi je voudrais tellement, mais j'ose pas. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? C'est comme le régime. Tu mangeras pas de pizza, de glace, de bonbons. Tout d'un coup, vous le faites bien pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ou peut-être un mois. Après un mois, tout d'un coup, vous avez les pommes frites, la poutine, la pizza, les chocolats, les bonbons, tout en même temps dans la bouche. C'est ça la loi. La loi n'a pas été pour vous aider à marcher droit. La loi a été pour vous vaincre, vous dominer. Et c'est ça que Paul dit, que vous ne serez pas dominés par le péché quand vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Voyez ? Et dans cette nouvelle alliance, on doit apprendre à ne pas vivre notre vie sous une liste de faire et ne pas faire la loi, mais on doit simplement jouir d'une relation avec Dieu, à jouir de cette relation dans l'esprit, à écouter l'esprit. Il nous a donné la parole, il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et voyez, quel est le point de ce message ce matin? C'est de connaître Dieu, d'être libéré dans notre relation avec Dieu. Quand on peut maintenant voir Dieu, non pas comme un juge, un perfectionniste, obsessif et compulsif, mais voir Dieu comme un, non pas comme un juge qui est prêt à nous taper sur le dos, sur les doigts, mais le voir comme un papa. Et écoutez-moi bien, le fait c'est que quand on marche comme ça, non pas sous la loi, mais qu'on est fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, dans la grâce. On sait que Dieu nous aime. Dieu, il n'est pas là pour nous punir et nous juger. Qu'est-ce que vous allez va se passer? Vous allez marcher droit, bien mieux qu'avant quand vous essayez tellement. Vous allez marcher droit d'une manière sainte et vous allez jouir d'une relation intime. Vous allez vous approcher de Dieu sans peur. Vous allez pouvoir marcher sans condamnation parce que vous dites, ok, même quand vous faites des fautes, parce qu'on en fait tous, ne regardez pas d'une manière si sainte avec une auréole autour de la tête. On fait tous des erreurs. Si vous avez dépassé la limite de vitesse ce matin, vous avez péché. Ah oui, on pêche tous sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait qu'en Jésus, il a payé pour notre péché. Et que maintenant, on sait que Dieu, il n'agit pas envers nous avec la foudre et la colère. Il nous accepte en disant, ok, tu es pardonné. Je t'aime, tu es pardonné. Parce que vous savez qu'est-ce que fait dès qu'on est dans la condamnation? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Quand il était, qu'il a péché, qu'il était maintenant conscient de son péché, condamné, au lieu d'aller vers Dieu, il a reculé. Il a cherché à se cacher et à reculer. Et sa relation avec Dieu, elle en a pris un coup. Et c'est ça que Dieu veut. Il dit non, je vais pouvoir vous aider à apprendre à marcher avec mon esprit, avec mon âme. Je vais vous motiver avec mon amour. Voyez, la vérité, c'est qu'on va marcher beaucoup plus droit quand on est motivé par l'amour que quand on est motivé par la peur. Au lieu de marcher sur des coquilles d'œufs en disant oh, j'ai peur de faire une erreur, et c'est là qu'on en fait plein des erreurs, on va marcher avec assurance dans l'amour. Et quand Dieu dit j'ai besoin que tu cours 1 kilomètre, tu vas dire Dieu, non seulement je vais courir 1 kilomètre, je vais courir 2 kilomètres. L'amour vous motive à aller plus loin, à sauter plus haut. Amen. Alléluia. C'est pour cela. Gloire à Dieu. Hébreux, regardons très vite. Je ne vais pas vous garder trop longtemps parce qu'on va prendre ensemble la Sainte Cène. On va prendre la Sainte Cène. J'avais prévu pour l'autre message, mais c'est bien, on va le prendre. C'est bon, non? Le prendre maintenant. Parce que maintenant, prendre la Sainte Cène, non pas sous la peur, comme certains nous l'ont enseigné. Oh, tu dois t'examiner parce que si tu as quelque chose de fait, qu'un petit pas de travers, alors, pam, pam, tu prends la Sainte Cène, la foudre va tomber dessus. Non, non, non. Ça, c'est un message, un autre message pour un autre moment. Mais on peut s'approcher et participer à la Sainte Cène en sachant que Dieu nous aime pour nous rappeler de quoi? Que tout jugement a été mis sur Jésus. Que maintenant, la colère, la malédiction, le jugement va nous passer dessus et ne va pas rentrer dans cette maison. La malédiction n'est plus pour nous. On peut participer à la Sainte Cène en se disant, non seulement le sang de Jésus a été versé pour m'épargner de la colère, du jugement et de la maladie, mais le corps de l'agneau a été rôti au feu, qui est un symbole de Jésus qui est allé en enfer. Il a été rôti dans les flammes de l'enfer, il a été brisé pour moi, et par son corps, je peux recevoir non seulement la force physique, mais la guérison complète. Si, voyez, c'était les bienfaits de l'agneau de Pâques, à combien plus forte raison est-ce maintenant les bienfaits qui nous appartiennent au travers de la Sainte Cène qui est la célébration et la commémoration de l'agneau de Pâques. Voyez, le peuple d'Israël était épargné du jugement quand le monde, Égypte, le jugement leur est tombé. Si vous appartenez au corps du Christ, c'est ça la raison. Si vous appartenez au corps du Christ, ça veut dire que vous êtes né de nouveau, que vous avez été circoncis dans votre corps, votre cœur, pardon, que vous savez, vous êtes né de nouveau, que vous êtes chrétien, vous avez le droit de participer à la Sainte Cène, de vous rappeler que Dieu vous aime, Dieu vous accepte, Dieu n'est pas en colère, il n'est même pas de mauvaise humeur avec vous. Dieu vous aime, il n'est pas en colère, mais Dieu vous aime. Oh, il se réjouit. Oh, et combien de personnes on les a privées de la Sainte Cène, on les a privées. Et je vais fermer. La Bible dit, Paul dit, de ne pas manger la Sainte Cène d'une manière indigne, indignement. Question, qu'est-ce que c'est qui nous rend dignes? Qu'est-ce que c'est qui vous... Votre bonne conduite? C'est quoi qui vous rend digne? Votre bonne conduite? C'est Christ, votre foi en Christ, voyez? Cette alliance, c'était l'alliance dans le cœur. La circoncision, c'est du cœur et non de la chair. Et Dieu regarde votre cœur. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, que vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, voyez, si votre bonne conduite ne peut pas vous rendre digne, votre mauvaise conduite ne peut pas vous rendre indigne. Merci pour ce « Amen ». Ah, je sais qu'il y a des personnes qui sont ancrées dans la religiosité et le légalisme, ça les rend fous. Pourquoi? La mentalité de la loi. On se concentre sur la chair, sur ce que l'on fait, nos propres efforts. Non. Nous sommes, messieurs, mesdames, sous une nouvelle alliance où Dieu maintenant regarde notre cœur. Et vous rappelez ce que Jésus a dit? Ah oui, vous pouvez tout bien faire. Vous payez la dîme au centime près. Vous priez trois fois par jour, vous faites ceci, cela. Mais à l'intérieur, vous êtes comme une tombe. Vous êtes plein de malice, de méchanceté et d'hypocrisie. C'est ça que Dieu ne veut pas. Et le levain que l'on doit enlever de notre maison, Jésus a dit le levain, c'est pas le péché. Le levain, c'est l'hypocrisie. C'est prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Donc enlevez le levain de votre maison, enlevez toute hypocrisie, enlevez toute malice en disant « Non, non, soyez franc, soyez authentique. » C'est ça que Dieu recherche, notre authenticité. Il recherche un cœur qui est authentique, qui ne prétend pas être quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui vient vers Dieu, on dit « Ouais, moi je fais des erreurs, moi j'essaie de conquérir ça Seigneur. » C'est pour ça qu'on a besoin de prendre la Sainte Cène. Quand on a des problèmes avec un certain péché, c'est une occasion pour se dire, avec l'amour de Dieu, je vais vaincre ce péché. Alors on participe à la Sainte Cène. Si on a un cœur authentique, vrai, qui aime Dieu, qui met sa foi en Dieu, en Jésus, en son œuvre, sur sa croix, non pas en nos propres efforts, alors là, Dieu dit, viens, prends la Sainte Cène. C'est une opportunité pour te rappeler que je t'aime, que je t'accepte, que je ne te juge pas. Je suis pas en colère avec toi. Je suis même pas de mauvaise humeur. Viens, viens, viens. Et en même temps que tu reçois mon amour, reçois ma guérison. T'as besoin de force? Reçois ma force. T'as besoin de guérison? Reçois la guérison. Amen. Alléluia. Est-ce que je pourrais avoir mon orchestre philharmonique? Ta-da-da! Alléluia. Qu'est-ce que je l'aime. Pasteur Joël, comment procédons à la Sainte Cène? Est-ce que je peux vous laisser faire la Sainte Cène, Pasteur Joël? Vous êtes un expert. J'espère que ce message vous a aidé. Mais écoutez-moi bien. On va prendre la Sainte Cène. Le problème, c'est que les gens le font comme des fois comme un rituel. Le pain, le jus, plop, plop. Sans vraiment comprendre ce que ça représente et sans s'approprier les bienfaits. Et donc, Jésus a dit, faites ça en ma mémoire. Mémoire de quoi? De qu'il était l'agneau de Pâques crucifié sur la croix. Et je vais vous demander de fermer vos yeux très, très, pour un tout petit moment. Parce que, afin que vous puissiez tous participer à cette commémoration de ce que Jésus a fait, vous devez être né de nouveau. Vous devez appartenir au corps du Christ. Ça veut dire que vous devez, par la foi, dire, ben moi je ne peux pas être juste, je ne peux pas être assez bon pour aller au ciel, je ne peux pas être assez parfait, j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin d'un sauveur, je reconnais que je ne suis pas parfait, je reconnais que je suis un pécheur. Et Jésus, je me tourne vers toi pour accepter ce que tu as fait. Je déclare devant les hommes que tu es fils de Dieu, que tu es mort sur la croix, que tu as été enseveli et ressuscité afin que je puisse recevoir la vie éternelle. Si c'est votre cas ce matin, que vous dites non, j'ai jamais fait ce pas de foi. Je n'ai jamais reçu vraiment Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Si c'est votre cas, je voudrais que vous leviez votre main très haut. Personne ne va vous regarder ou vous juger. Oui, je vois cette main. Deux, oui. N'ayez pas, voyez, Jésus a dit, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, moi je n'aurai pas honte de vous. Vous avez, oh, alléluia, je vois cette main. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est une opportunité maintenant. Ce qui vous a été refusé avant, où vous ne pouviez pas vraiment participer à la Sainte Cène, parce que si vous êtes hors du Christ et que vous participez à la Sainte Cène, oui, comme le pays d'Égypte, vous allez attirer le jugement sur vous. Mais dès que vous êtes en Christ et que vous participez à l'agneau de Pâques, le jugement ne peut plus tomber sur vous. Oui, je vois ses mains. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous demander de faire quelque chose d'autre très vite, si vous me permettez. Levez-vous très vite et venez de l'avant, là, parce que je veux prier pour vous. Voyez, ces dames et messieurs, dans une petite minute, ça va devenir vos frères et vos sœurs. Ça veut dire que, en priant cette prière, vous allez devenir un fils ou une fille de Dieu. Vous allez être maintenant branchés dans cette famille de Dieu. Et maintenant, vous allez avoir le droit de participer à la Sainte Cène, de recevoir la guérison. Amen. Si le peuple d'Israël était guéri et en bonne santé parce qu'ils ont mangé un petit agneau, est-ce que vous croyez qu'en participant à l'agneau de Pâques qui est Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu qui a le sang pur, est-ce que vous croyez que la guérison ne va pas rentrer dans votre corps? Amen. Répétez après moi. Vous allez répéter après moi, d'accord? Père, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je suis un pécheur et je ne peux pas être juste par mes propres efforts. Mais Jésus, je t'accepte ce matin comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Et je crois que tu es mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés, mais tu as été ressuscité des morts pour que je puisse recevoir la vie éternelle. Alors je te remercie au nom de Jésus, et je confesse devant les hommes que je suis maintenant fils de Dieu, que j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis une nouvelle création et Dieu m'aime. Il m'accepte, il me guérit, il me touche, il m'aide. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à te connaître, à te parler, Dieu, et à découvrir combien tu m'aimes et combien je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Tournez-vous un petit peu. Messieurs, mesdames, bienvenue. J'ai l'honneur, j'ai le grand honneur de vous présenter votre nouvelle petite sœur et votre nouveau grand frère. Un petit cadeau pour vous, de la part de Pasteur Joël. Allez, voyez maintenant, vous allez avoir des bons yeux, vous allez pouvoir lire et vous allez pouvoir vous nourrir. Amen. Alléluia. Pasteur Joël.
Vous allez prier aussi. Amen. Gloire à Dieu. On va maintenant distribuer les coupes. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que c'est fait? Non? Non, on vous laisse distribuer les coupes. On va chanter un chant et notre sœur Audrey va prier aussi pour nous. Amen. Vous êtes d'accord? Je vais juste lire un texte dans Éphésiens chapitre 2. Ça dit, « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Vous savez, hier ou avant-hier, on a soupé avec vous. C'est hier? Avant-hier? Avant-hier. Et puis, je racontais comment un père spirituel, pendant longtemps, il mettait sa foi dans sa performance chrétienne. Il priait. Certainement, il allait à l'église, il lisait la Bible, et puis il avait du mal à avoir la victoire. Et un jour, Dieu lui a dit, après 45 ans de ministère, Dieu lui a dit, « T'as un problème dans ta vie parce que tu mets ta foi dans ta performance de ces bonnes choses. » Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas accorder l'onction sur notre performance parce que c'est uniquement Jésus qui a tout accompli. Amen. Et ce matin, comme nous allons prendre la Sainte Cène, vous faites enlever la pellicule. On va s'attendre ensemble dans la maison de Dieu. Une fois que vous l'avez reçue, on va s'attendre. Mais on va enlever la pellicule et puis on va se rappeler justement de l'œuvre de la croix. Parce que ce que notre sœur Audrey a prêché ce matin, tout ça, c'est possible pour nous de ne pas vivre sous la condamnation parce que nous comprenons que Christ a tout payé. Et à cause du sang de Jésus, nous pouvons être parfaitement purifiés. Amen. Donc, pour accéder au ciel, on doit être parfait. Mais la seule façon d'être parfait, c'est de recevoir celui qui est parfait, qui a payé et d'être parfaitement pardonné. Amen. Nous sommes parfaitement pardonnés parce que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va juste prendre ce craquelin maintenant au nom de Jésus. Prenons-le ensemble. Oui, merci Seigneur Dieu pour ton corps qui a été brisé pour nous. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour ton amour pour nous. Merci parce que comme nous nous rappelons aujourd'hui de l'œuvre de la croix, nous entrons dans la liberté totale. Nous sommes libres en toi. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés, mais nous sommes vivants pour toi, vivants pour marcher dans la sainteté. Amen. Maintenant, vous pouvez enlever l'autre pellicule, on va prendre la coupe. Amen. Et vous savez, le sang de Jésus nous purifie, mais également on peut se rappeler qu'à cause du sang de Jésus, aujourd'hui, on peut recevoir la guérison divine. Amen. Je vais laisser notre sœur Audrey Mac prier maintenant avant qu'on prenne la coupe. Si vous avez besoin de la guérison dans vos corps, c'est le temps aussi de relâcher votre foi pour la guérison. Amen.
Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 105, verset 37, que tout le peuple d'Israël, parce qu'ils ont mangé l'agneau de Pâques, ils sont sortis d'Égypte et aucun parmi leurs tribus n'était faible ou infirme ou malade. Aucun, plus de 3 millions et quelques de personnes et pas un était malade. Pourquoi ? Parce qu'ils ont participé à l'agneau de Pâques. Par la chair de l'agneau, ils ont reçu une force physique et une guérison physique. Alors si la chair d'un petit agneau les a guéris et les a rendus forts, à combien plus forte raison est-ce que le corps du Fils de Dieu, dont le sang de Dieu coule dans ses veines, à combien plus forte raison peut-il et va-t-il vous guérir? On a vu auparavant que Pasteur Mathilde a chanté que Dieu, il est fidèle. Il le fera. Il l'a déjà fait en Christ et c'est à nous de recevoir. Buvez cette coupe. Vous avez mangé le pain. Recevez à l'instant même votre guérison. Au nom de Jésus. Je déclare à toute arthrite de sortir de vos corps. Diabète, je te maudis, sors de leur corps. Maladie de cœur, maintenant, je te commande d'arrêter dans leur corps. leur corps, les irrégularités de cœur, irrégularités de cœur à l'instant même. Votre cœur va commencer à battre d'une manière régulière. Il y a des problèmes de rein, le rein droit, votre rein droit qui, vous avez eu des problèmes, vous avez comme une infection qui s'est développée où maintenant vous êtes dans la douleur. Maladie de rein, sort. Il y a quelqu'un, vous avez appris que vous avez une maladie héréditaire. Les docteurs vous ont dit ça vient de votre famille. Alors je dis, je maudis ce mensonge, je dis non, je l'annule. Je dis maintenant, vous êtes racheté de la malédiction. Et ce que Dieu a béni ne peut pas être maudit. Je déclare que vous êtes béni, guéri et béni. Vous avez, il y a quelqu'un qui a des maladies de genoux, des problèmes de genoux. Les rotules maintenant, le cartilage est tellement usé que maintenant vous avez du mal à marcher, à monter les escaliers. Mettez vos mains sur vos genoux à l'instant même. Mettez vos mains sur vos genoux à l'instant même et recevez votre guérison. La puissance du Saint-Esprit maintenant qui va dans votre corps pourra guérir, pour réparer, reformer ce cartilage. Et au nom de Jésus, je déclare, par la foi, commencez à agir. Commencez à agir par la foi. N'attendez pas de sentir quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez complètement en bonne santé? Alors commencez à courir, à sauter. Alléluia. Tokora maha tete fa pepra fishti kana masterando. Oriata kashiki de bane estare kabrapte kare. Il y a quelqu'un, l'oreille droite, vous avez commencé à avoir votre oreille droite, lui qui a commencé à s'affaiblir. Ou tout d'un coup vous êtes aperçu que c'est beaucoup plus difficile d'entendre de l'oreille droite. Je déclare que vous allez aller ce soir à la maison et vous allez vous coucher tout d'un coup, vous apercevoir que votre oreille entend parfaitement, bien aussi bien que l'autre. Alléluia. Sotane mate brafta kadje i kashtere de kandore. Oraba ashekati kindele. Il y a quelqu'un, vous avez des problèmes de sinusite. Tous les printemps, vous êtes cloué avec des infections des sinus, avec des mal de tête. Je commande maintenant à ces sinusites, à ces problèmes de sinus maintenant. Soyez guéris, recevez votre guérison. À partir de maintenant, vous êtes libre, libre, libre. Ça va être une chose du passé. Plus jamais, ça va revenir au nom de Jésus. Je commande à ses yeux de voir. Les muscles oculaires vont se reformer. Toute cataracte va être maudite au nom de Jésus. Cataracte, part, sort. Je commande à cette membrane de se sortir, de tomber de leurs yeux. Pasteur Joël, vous avez une parole de connaissance, quelque chose?
Oui, moi, ma parole de connaissance est moins édifiante. Oh. Mais bonne quand même, parce qu'elle vient de Dieu. Vous savez, mardi soir, ma femme et moi, on était à Ottawa. Et puis, elle a imposé les mains sur une femme qui avait des problèmes. Mais Mathilde, je pense pas que tu connaissais l'histoire, hein? Mais la femme avait des problèmes de sinus depuis des années. Et puis, les sinus ont commencé à brûler, c'est ça? Pendant la réunion, pendant le temps de prière et après, en sortant aussi, elle dit, mais ma face est toute engourdie, je ressens ça longtemps après. Gloire à Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose. Je vous raconte ça pour vous dire, les guérisons que Dieu opère, comme ça, nécessitent la foi. On doit recevoir. Cette femme-là était simple, était là pour recevoir. Mais il y en a d'autres aussi qui sont là comme des Thomas. Des Thomas. Thomas. Qui disent, je vais croire quand je vais voir. Mais ça, la bénédiction n'est pas pour ces gens-là. La bénédiction est pour ceux, aujourd'hui c'est une parole, c'est pas une parole de connaissance, c'est une parole d'exhortation. La bénédiction est pour ceux qui veulent croire. Vraiment, c'est une question d'une volonté. Et aujourd'hui, on va juste recevoir tout ce dont on a besoin, peu importe les paroles que notre sœur a prononcées. Si vous n'avez pas entendu votre nom ou votre symptôme, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu connaît votre besoin. Et aujourd'hui, on élève nos mains et on reçoit de Dieu directement. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ton onction. Maintenant, nous déclarons Seigneur Dieu, ta parole, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris au nom de Jésus. Et nous commandons au corps malade dans cette église, maintenant, corps, tu es restauré au nom de Jésus. Tu t'alignes selon la volonté de Dieu. Et nous savons, selon la parole de Dieu, qu'il guérit toutes nos maladies. Et nous disons amen maintenant. Nous déclarons la parole de foi sur vous maintenant. Et nous vous déclarons guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et ce que je reçois, c'est juste qu'il y a quelqu'un dans son dos. Dieu est en train de replacer votre dos. Vous ressentez la présence de Dieu présentement. Gloire à Dieu. Et recevez tout simplement votre guérison au nom de Jésus. Vous savez, c'est facile recevoir de Jésus parce qu'il est tellement compatissant. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime avec un amour éternel. Il aime ça vous faire du bien. Donc recevez de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici, vous dites, ben c'est à moi le Thomas. Bien, vous fait changer. La bonne nouvelle vous fait changer et dit, je ne serai plus jamais un Thomas. Aujourd'hui, je crois à la parole de Dieu. J'ai choisi d'attacher ma foi à cette parole qui dit, il guérit toutes mes maladies. Toutes mes maladies, je crois et je reçois au nom de Jésus. Amen.
La Bible dit que le royaume de Dieu souffre une violence et c'est les violents qui le prennent par la force. Quand il y a une parole qui a été déclarée comme ça, comme Pasteur Joël a dit, n'attendez pas de sentir quelque chose. Prenez votre guérison par force. Et comment est-ce qu'on va la prendre? Comment allez-vous la prendre? Ce que Marie a dit aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent de faire, faites-le. Il y en a certains parmi vous, vous avez senti, oh, peut-être qu'il faudrait que je cours. Mais vous vous êtes dit, oh ben non, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fiche ce que les gens vont penser. Vous avez besoin d'aller et de courir. Vous avez besoin, si vous avez des problèmes de genoux, allez dans le couloir, commencez à courber vos genoux, allez dehors, montez en haut, en bas des marches, faites quelque chose, ne restez pas là planté. Ce qu'il vous dit de faire, vous entendez le Saint-Esprit, il vous parle tous les jours. Ce qu'il vous dit de faire, simplement faites-le, et c'est là que vous allez voir la pluie, la manifestation va se réaliser. Les violents le prennent par la force. Amen. Rappelez-vous de mettre votre foi en Christ. Votre foi en Christ et pas en l'homme, pas en vous-même. Je voudrais vous poser la question. Il y a quelqu'un là, on a donné des paroles de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous pouvez dire, moi, j'ai commencé à recevoir la manifestation. J'ai commencé à voir quelque chose qui se passe dans mon corps. Levez votre main si c'est votre cas. Vous pouvez venir ici très vite. Venez, venez en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos genoux. Qu'est-ce qu'ils avaient, vos genoux? Il y avait de la douleur dans vos genoux? Il y en a maintenant? Il n'y a plus de douleur dans ses genoux. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur. Ils vont vaincre avec le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a quelqu'un là qui avait des problèmes. Sandalaba prafashtandere kestide. Konetata bravashtarada kastide. Il y a quelqu'un d'autre, on essaie de me montrer quelque chose là. Et qu'il y a quelqu'un, vous avez commencé à voir votre manifestation. Alléluia, alléluia. Vous avez peut-être senti une chaleur ou quelque chose, qu'il y a quelqu'un avec des problèmes de cœur. Qui c'est ça? Madame, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est fini? Ben alors, venez ici très vite. Ma sœur africaine, qu'est-ce que j'aime l'Afrique? Qu'est-ce qui se passait dans votre cœur?
Ça que j'avais un problème de palpitation de cœur. Et puis je sentais quelque chose qui pique. Et le médecin me disait, ça vient de, c'est l'hérédité, ça vient de mes parents, mes grands-parents.
Et qu'est-ce qui s'est passé là?
Et aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à prêcher, les piqûres, ça s'est terminé.
Alléluia! Amen! Alléluia! Et vous savez, la puissance, c'est quand on vient pour témoigner. Et je sais, vous savez, des fois, c'est quand même bizarre. On a besoin presque de vous forcer à venir. Et je sais qu'il y en a d'autres parmi vous, là, vous avez des témoignages, mais vous avez peur de lever la main ou de venir. Amen. Ne laissez pas ce témoignage que le diable vous le dérobe. Amen. Cette dame avait des palpitements de cœur. On a donné une parole de connaissance. Elle a dit que les docteurs lui ont dit que c'était héréditaire. Et elle a dit qu'au début, quand elle a commencé à prêcher et qu'on a prié, les palpitements, son cœur, elle a senti son cœur se guérir et les palpitations irrégulières s'arrêter. Amen. Alléluia. Je veux vous encourager. Prenez par la force et allez vers quelqu'un. Si ce n'est pas ici, devant le pupitre, allez dire à quelqu'un, témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Ça, c'est un bon moyen pour prendre possession de votre guérison.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous prenez, on va louer le Seigneur. Amen. J'ai à cœur. Dimanche prochain, on va faire une école de guérison dans cette maison. Amen. Parce que le Seigneur de Dieu est en train de faire des choses parmi nous. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Depuis plusieurs semaines, je sais que l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses. Et puis, certains d'entre vous, vous êtes nouveaux ici et vous avez besoin d'être renouvelés. La parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une école de guérison ici, dimanche prochain, pour que vous puissiez vraiment saisir la vérité pour marcher libre dans la santé divine. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta servante qui nous a porté ta parole. Merci pour cette onction que nous recevons dans nos vies, dans nos corps. Nous te remercions pour la santé divine. Nous te remercions, Seigneur, pour la guérison de la tête aux pieds. Nous marchons dans ta guérison aujourd'hui. Nous la recevons par la foi. Seigneur Dieu, nous te remercions également pour cette marche dans la grâce. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est un Père compatissant, rempli de compassion, un Dieu miséricordieux. Merci, Saint Dieu. Alléluia. Merci parce que tu nous donnes la puissance. Lorsque nous réalisons notre faiblesse, c'est alors que nous pouvons être forts en toi, remplis de ton onction, de ton esprit pour cette marche chrétienne. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous avons prié en ton nom. Amen et amen. Amen. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. À mercredi soir. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.